Bonjour à toutes et à tous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez certains bien couru, passé une bonne matinée et que vous êtes prêts pour qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu aujourd'hui. Comme Florence l'a lu et comme Florence l'a dit, le thème d'aujourd'hui c'est la vie du chrétien, une course pour l'éternité. Je sais que certaines personnes ont mis en pratique déjà avant même que je prêche une partie de la prédication. Mais on va voir plus en détail aujourd'hui qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, qu'est-ce que Paul voulait me dire à travers ce passage. Donc avant de commencer, je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, on veut te remercier parce que tu as voulu qu'on soit là aujourd'hui. Tu as souverainement décidé qu'on soit réunis dans ce lieu, dans cette église, entre frères et sœurs, Seigneur, pour pouvoir partager de toi, pour pouvoir apprendre de toi, Seigneur, et tu viens nous parler encore une fois par ta parole. Merci pour la Bible, Seigneur, cette parole vivante, qui chaque jour nous travaille, Seigneur, qui chaque jour veut nous éclairer dans nos vies. Et Père, on veut vraiment te demander que cet après-midi, Seigneur, tu puisses venir nous parler, Seigneur. Tu viennes dans nos cœurs, tu viennes transformer notre âme, nos esprits, et qu'on puisse vraiment encore plus penser comme toi, Seigneur, qu'on puisse vraiment plus te chérir et être captif de toi, Seigneur, de ton amour et de ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, je ne sais pas si... Il vous est déjà arrivé de courir. Je pense que certaines personnes ont déjà couru ce matin. Ou d'autres personnes, est-ce que la course, c'est quelque chose que vous aimez bien? Mais aujourd'hui, on m'avait demandé, ok, Michael, on ne fait pas d'études suivies, on n'a plus de livres à étudier aujourd'hui, donc tu fais un peu ce que tu veux. Et moi, comme je suis un homme de contraintes, plutôt, je me dis, ah mince, quand on met pas de contraintes, en fait, c'est encore plus dur de choisir un thème, parce que du coup, c'est un peu au hasard. Enfin, c'est pas au hasard. On a le Saint-Esprit maintenant, mais c'est plus... faut choisir. Et du coup, je savais aussi que Eric comptait faire quelque chose pour Epic aujourd'hui à travers la course. Et je me suis dit aussi, c'est l'occasion pour moi de parler, de partager de deux choses qui sont en fait mes passions. La course, c'est pas très excitant comme passion, et Dieu. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous présenter ce texte qui m'est particulièrement à cœur et qu'on va étudier un peu plus en détail aujourd'hui. Attendez, je vais prendre la télécommande. Ou alors, Denis, tu... Ouais, voilà, super. Donc voilà à peu près ce qu'on va étudier aujourd'hui. Le plan de ce texte, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous dire? On va parler de course, on va se demander pourquoi. Pourquoi et pourquoi? C'est-à-dire les raisons, les motivations, donc le pourquoi. Et le pourquoi, qu'est-ce qu'on va aller rechercher à travers cette course? Donc j'ai les motivations de course. Deuxièmement, comment? Comment est-ce que Paul nous appelle à courir? Quelles sont les modalités, quelle sont la manière de laquelle il veut qu'on court. Et troisièmement, vers quoi cette course nous appelle en fait. Et on va voir que c'est un appel aussi aux autres. Voilà les trois parties qu'on va voir aujourd'hui. Donc le texte qu'on va étudier se trouve dans 1 Corinthiens. Florence vous l'a lu tout à l'heure. Comme vous le savez, on a fait des études sur 1 Corinthiens. Paul a écrit la lettre aux Corinthiens parce que les Corinthiens, ils n'étaient pas forcément les chrétiens les meilleurs au monde. Les Corinthiens, il y avait pas mal de divisions. Beaucoup de Corinthiens étaient encore attachés à leur ancienne chair, à leur ancienne nature, et ils voulaient vivre un peu de leur propre manière. Et Paul leur a écrit aussi pour leur rappeler quelques points doctrinaux très forts également. Et à partir du chapitre 8, on voit qu'il parle de la liberté en Christ. On parle des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce qu'on peut les manger? Est-ce qu'on ne peut pas les manger? Est-ce que j'ai une pierre d'achoppement pour mon frère ou ma sœur? Et ensuite arrive ce passage, donc chapitre 9, à partir du verset 23. Donc première partie, pourquoi courir? Paul nous le dit dans le verset 23, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Et ça c'est très intéressant parce qu'il dit, en fait je vais courir, et il arrive après, je vais courir aussi pour avoir part à l'évangile. On dirait la course en tant que chrétien, la course c'est quoi? La course c'est quand j'ai commencé à accepter Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai commencé à accepter Jésus-Christ dans mon corps, je rentre dans la course, je rentre dans cette vie de chrétien. Je rentre dans la course que Dieu m'appelle à vivre. Et ici, Paul, il dit, je me fais tout à tous, je cours la course pour prendre part à l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre part à l'évangile? On regarde dans Romains chapitre 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile est une puissance qui sauve. Frères et sœurs, ici, pour tous ceux en tout cas qui croient en Dieu, nous avons cru que l'évangile pouvait nous sauver. Pour celui qui croit en Jésus-Christ, c'est une puissance qui sauve, tout le monde. Deuxièmement, 1 Timothée 4, 16, donc on a vu la puissance salvatrice du salut. Veille sur toi-même et sur ton enseignement et persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras les autres, ceux qui t'écoutent. Donc on voit qu'il y a aussi cette notion de veille sur ce que tu fais, ce que tu enseignes, ce que tu dis, parce que ça pourra avoir un impact sur les autres, de la manière que tu prêches, et ça pourra aussi avoir un impact sur toi. Tu te sauveras toi-même. On va revenir un peu plus tard sur « tu te sauveras toi-même ». Donc Paul ici nous dit « moi je cours, les Corinthiens, parce que je veux prendre part à l'évangile, je veux annoncer l'évangile, et je veux aussi, entre guillemets, me sauver moi-même. » On va voir ce que ça veut dire vraiment, me sauver moi-même. Deuxième point, tu peux avancer. De peur d'être disqualifié. Encore une fois, c'est un peu quelque chose de négatif. Vous allez dire, oui, il court peut-être pour quelque chose. Enfin, on va voir après. Mais ici, encore un autre point négatif. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Là, Paul est assez clair. Hein. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que moi, j'ai l'amour de l'évangile. Je me fais tout à tous. Je vais prêcher à tout le monde. Je me soumets aux coutumes. Je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il a peur quand même, Paul, d'être rejeté. Et au final, rejeté, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça voudrait dire que je pourrais perdre mon salut? Est-ce que ça voudrait dire que je pourrais être chassé de l'Église, de Dieu, entre guillemets, et ne plus recevoir les bénédictions du salut? Paul, en tout cas, ici, dit, je traite durement mon corps, je tiens une discipline, on va voir après, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. On peut le voir un peu plus tard, chapitre d'après, 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et la suite, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Des gens croient en Dieu, des gens croient connaître Dieu, mais des gens ne sont pas forcément sauvés. Ici, il dit même, dans la Bible, il est écrit que même les démons croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ peut sauver, mais ce sont des démons quand même. Ici, Paul nous dit, je fais tout ça de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, on voit ici, Paul nous dit qu'il a peur d'être disqualifié, il a peur d'être rejeté également. Donc, deuxième chose, un aspect assez négatif, en fait, au final, d'une course. Ce n'est pas vraiment une incentive, comme un encouragement, mais c'est quelque chose de négatif, en fait. J'ai envie d'y prendre part, j'ai envie d'être sauvé, j'ai peur d'être disqualifié. Des signaux assez négatifs. Troisième part, là Paul parlait de sa vie, mais là Paul va un peu plus parler de aux Corinthiens en fait. Il parle de la course. Il faut savoir que pour les Corinthiens, quand il parle aux Corinthiens, quand il parle de la course, il parle du combat aussi dans Philippiens, on va le voir après. C'est les deux images que Paul utilise le plus pour traduire la vie chrétienne, pour traduire la vie. Qu'est-ce qui va se passer quand on accepte de suivre Jésus-Christ? C'est une course, c'est un combat. C'est des choses qui ne sont pas faciles de base. Quand il parle de course ici, il faut savoir que les Corinthiens connaissaient déjà les Jeux Olympiques, mais eux, quand Paul leur parle ici, ce n'est pas les Jeux Olympiques, c'est les Jeux isthmiens. Isthme, comme l'isthme de Panama, etc. Là, petit bout de terre. Donc c'est des Jeux isthmiens qui correspondent à la situation géographique de Corinthe. Et dans les Jeux isthmiens, ça se passe tous les 3 ans. Et pour participer aux Jeux isthmiens, il y a la course, il y a du lancer de poids, il y a également, je crois, une course d'orientation par rapport à la ville. Et pour participer à ces Jeux-là, il faut avoir une sorte d'attestation pour dire « je me suis entraîné au moins 10 mois ». Pendant 10 mois, je me suis entraîné pour isthmiens. Les Jeux isthmiens, donc, qui ont lieu tous les 3 ans, je viens et je m'entraîne avec tous les autres pendant 1 mois tu as un gymnase et tu t'entraînes tous les jours pour la compétition. Une fois la compétition est terminée, le jour du grand rassemblement, il n'y a qu'une seule personne qui gagne. Une seule personne qui gagne, et cette personne gagne, en plus d'une couronne, elle gagne ce qu'on appelle l'immortalité. À l'époque, c'est marrant, hein, on parle d'immortalité. À l'époque, l'immortalité, c'était quoi ? C'était une reconnaissance et un respect éternel auprès de tous les pères. Tous les Grecs, tous les Corinthiens le connaissaient. Je disais, waouh, c'est... Je sais pas moi, c'est comme si c'était Cristiano Ronaldo ou je sais pas, ou LeBron James, Michael Jordan, voilà. Tous les basketteurs, c'est comme si c'était Michael Jordan. Vous voyez, le mec est rentré dans la conscience des gens. Tout le monde le connaît parce que c'est une star. Et on dit qu'il accède à l'immortalité parce que tout le monde le connaît et ce nom sera éternel parce qu'il sera gardé dans la ville, en fait. Et ça, c'est très intéressant, ce concept-là, parce que le prix que nous, on est amené à avoir en tant que chrétien, ce n'est pas une reconnaissance, c'est pas que tout le monde va nous connaître, mais c'est aussi une immortalité qu'on a, que Dieu va nous donner à la fin de notre course. Donc verset 24, hein, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. La couronne que nous allons obtenir, frères et sœurs, c'est beaucoup plus que tout ce que le monde a à nous offrir. Et ça, on rentre dans le pourquoi. Pourquoi, en fait ? Vers quoi, en fait, nous tendons ? Pour illustrer mon propos, je vous ai ramené quelque chose. En fait, ça, si vous voyez, c'est un peu une couronne que j'ai reçue. Enfin, c'est plutôt une médaille. Mais c'est un prix que j'ai reçu en courant le semi-marathon de Disney il y a trois semaines. Pour être honnête, je disais aux gens, ouais, en fait, regardez cette médaille. Franchement, moi, je m'en fous, la médaille. Parce que ça veut rien dire, une médaille. Si vous voulez, je disais aux gens, je vous la donne, la médaille. C'est pas très important pour moi. Mais en fait, quand je l'ai reçue, vous la voir, franchement, elle est belle en plus. Hein. Elle est super belle. C'est marqué inaugural, genre c'est la toute première. Et quand je l'ai reçue, en fait, je me suis rendu compte de l'importance que ça avait. Parce que ça, je sais ce que j'ai fait pour l'avoir. Je sais ce que j'ai enduré pour l'avoir. Je sais que je la mérite. Que j'ai couru les 21 kilomètres qui me séparaient de la distance d'arrivée pour gagner cette médaille. Et cette médaille, c'est pas juste un bout de métal. Cette médaille, c'est un peu un signe, une démonstration, une preuve que j'ai fait la course, que j'ai couru la course, que j'ai terminé la course. Et je pense, frères et sœurs, que ce que Paul veut dire dans les trois points que je vous ai dit, j'ai pris volontairement des points négatifs. Peur d'être disqualifié. Peur de, entre guillemets, perdre son salut. Et puis finalement, le prix aussi, la couronne qu'on va avoir. Paul ici n'est pas en train de nous dire que frères et sœurs, faites attention, vous pouvez perdre votre salut. Parce que ce serait totalement contraire à ce que Paul nous enseigne sur la grâce. Il n'est pas en train de nous dire que frères et sœurs, la manière dont vous allez courir va avoir un impact sur votre couronne de justice. La couronne de justice, Dieu nous l'a donnée à travers Jésus-Christ sur la croix. La mort de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés nous a donné cette couronne de justice. Mais ce qu'il est en train de nous dire Paul ici, c'est que frères et sœurs, la course, la vie chrétienne que nous sommes en train de vivre, c'est quelque chose d'important. C'est excessivement important ce que nous faisons sur cette terre. La manière dans laquelle nous allons vivre, les personnes dans lesquelles nous allons mettre notre confiance, celui sur qui on va se reposer, nos fondations même, toutes ces choses-là vont être vues dans notre vie. Et Paul nous rappelle qu'il faut les faire, il faut choisir de manière intelligente et de manière biblique et spirituelle ces choses-là. Paul n'est pas en train de nullifier la grâce à travers la course, mais il est en train de dire que votre course va vérifier la grâce que vous avez reçue en Jésus-Christ. La course ne va pas nullifier la grâce, mais la course va vérifier la grâce que vous avez en Jésus-Christ. En gros, la manière dont vous allez courir va refléter votre vie et votre relation avec Dieu, votre engagement avec Jésus-Christ. Si Paul a décidé de courir comme ça, c'est pas parce qu'il voulait s'imposer toutes ces choses-là. Paul a décidé de courir comme ça parce que il avait cet amour pour Dieu, il avait cet amour à travers Jésus-Christ qui était mort pour lui. Il s'est dit, je vais courir, je vais me faire tout à tous, je vais gagner des âmes pour Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, il n'a pas fait tout ça, il n'a pas subi les moqueries, la persécution, les tortures et le châtiment le plus horrible de l'époque pour que nous puissions vivre notre vie, l'accepter, être sauvé et puis vivre notre vie de manière chill, je dirais, juste poser et participer à l'église le dimanche et puis voilà, juste retourner dans nos vies. Dieu veut que nous puissions rejeter les mauvaises choses du monde et nous attacher à lui. Sinon, le sacrifice de Jésus-Christ n'aurait aucun sens. Pourquoi est-ce que Christ serait mort si je vis encore de la même manière et si je ne combats pas le péché et si je ne m'accroche pas à vivre et à courir une vie chrétienne qui en vaille la peine. Ça, je pense que c'est très très important et c'était pour moi aussi une manière aussi pour de me remettre en question en fait et nous remettre tous en question au jour d'aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans ma course, dans la course? Est-ce que je suis rentré dans la course ou pas? Est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur ou pas? Est-ce que du coup, si oui, est-ce que ma course aujourd'hui, la manière dont je cours, est-ce que je suis en mouvement? Et on va voir après les modalités, est-ce que je cours pour Dieu ou est-ce que je suis arrêté? Est-ce que je suis perdu sur le chemin? Est-ce que j'ai besoin de revenir à Dieu? Donc, toutes ces choses-là, Paul, volontairement aussi, met ces choses-là, peur d'être rejeté, peur d'être disqualifié. Il le met en exergue, non pas pour dire que, frères et sœurs, vous pouvez perdre votre salut, mais pour dire que, frères et sœurs, remettons-nous en question aussi. Où est-ce qu'on en est dans notre course? Est-ce que je continue à courir? Est-ce que je me suis arrêté? Est-ce que je me suis détourné? Ou est-ce que je cours la course? Est-ce que je combats le bon combat? Donc voilà pour la première partie. On va maintenant voir, dans une deuxième partie, les modalités de la course. Donc comment est-ce que Paul court et comment est-ce que nous, on est appelés à courir? Donc, premièrement, verset 24, courez de manière à le remporter. Bon, ce matin, je ne sais pas si vous avez couru de manière à remporter la course. Qui arrive en premier? Voilà. Lui, c'est un vrai chrétien, lui. Courez de manière à le remporter. Et ça, c'est excessivement important, je pense, de voir en fait comment Paul nous appelle, de manière à le remporter. Il y a deux notions pour moi qui s'en détachent, c'est l'intensité et puis l'intentionnalité. Intensité et intentionnalité. Tu peux aller à la prochaine slide, s'il te plaît?
Voilà.
Ok. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ça? Genre les gens connaissent pas les marques et tout. On est des chrétiens, on prend pas de marques. Alors ça, je vous le dis, hein, ceux qui savent pas, ceux qui sont trop spirituels. Ça c'est Nike, en fait c'est une marque de vêtements. Mais du coup, question, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire Nike? Pourquoi Nike? Nike. Parce qu'une virgule c'est swoosh en anglais, c'est pas Nike. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé Nike? Alors peut-être question, je vais vous dire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, pas Nike, mais Nike? Enfin, N-I-K-E, Nike, mais c'est du grec. Ah, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non? N-I-K-E. Ok. Est-ce que vous savez c'est quoi un marathon? Ouais. Alors maintenant, il y a un lien avec Nike et marathon que je vais vous expliquer très rapidement. Marathon, quand on dit marathon, 42,194 km, c'est le nom d'une ville. C'est le nom d'une ville située en Grèce qui a été très connue lors du 5e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi? C'était lors de la première bataille des Mèdes. Vous vous rappelez, 500, tout ça, les Léonidas, les, les Spartiates, etc., bah, ça s'est passé avant, en fait. Avant ça. Les Perses arrivaient, voulaient envahir, le roi Xerxès voulait envahir les Grecs, et les Athéniens ont envoyé 2000 soldats grecs à la ville de Marathon pour contrer l'arrivée des Perses. Les Perses étaient au moins 10 fois plus, si ce n'est 50 fois plus, ça dépend des historiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés, ils étaient en haut de la colline, les Perses sont arrivés, ils ont déferlé sur les Grecs. Le général grec a envoyé Philippéide pour courir jusqu'à Athènes, de Marathon à Athènes, pour annoncer la victoire. En fait, ils allaient gagner pour annoncer la victoire. Et le redéploiement des troupes sur un autre côté des côtes grecques. Parce qu'en gros, les Athéniens étaient tellement forts qu'ils ont repoussé les Perses. Les Perses sont remontés dans le bateau et les Perses voulaient attaquer d'un autre côté pour prendre par surprise les armées grecques. Du coup, le Philippéide a couru 42,194 km jusqu'à Athènes, non-stop, pour annoncer ça aux Athéniens pour qu'ils puissent ensuite redéployer l'armée. Plusieurs versions diffèrent. Mais en gros, c'était ça. Philippéide, ce jeune grec qui a rendu la ville de Marathon excessivement populaire, a donné un sens en fait à sa course. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il est arrivé? En fait, il est arrivé, il a délivré son message et il est mort. Mort d'exténuation. Merci. Excusez-moi, je suis chinois, je ne peux pas bien parler français. Il est mort d'exténuation. Il a couru, il a tout donné jusqu'à pour délivrer son message. Et c'était ça son but. C'était ça le but de Philippéide. Il a couru, il a pas réfléchi à sa famille, à ce qu'il avait. Il a obéi à l'ordre. Il a dit, j'y vais, je donne tout. Pour qui? Pour Athènes. Pour une cause qui est transcendante, en fait. Et je vais délivrer ce message. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi le mot? Il a dit, Nike, qui signifie victoire. Et les Athéniens ont compris ce que ça voulait dire. Vous regarderez l'histoire, mais les Grecs ensuite se sont redéployés, ils ont réussi à contrer les Perses et les Perses sont repartis. Mais tu peux revenir? Mais voilà, cette histoire pour revenir à comme un gagnant, avec intensité et intentionnalité. Frères et sœurs, si nous sommes dans cette course, Dieu ne veut pas que nous soyons juste tièdes, juste, ah, j'y vais, mais j'y vais pas. Je donne ma vie à Dieu, mais certains aspects de ma vie, j'ai pas envie de donner. Certaines activités, je ne veux pas encore les laisser peut-être à Dieu ou même les abandonner. Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Matthieu 22, 37, vous connaissez tous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ici, on ne dit pas à moitié de ton âme, à moitié de ta pensée, mais on dit bien de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force. Soyons prêts aussi, frères et sœurs, quand on accepte Jésus-Christ et quand on court, à avoir cette intensité-là de se dire, Seigneur, je veux tout donner pour toi. Quand je fais quelque chose, quand je prépare mon prêche, quand je prépare la louange, et même quand je vis ma vie, quand je suis avec mes collègues, avec mes camarades de classe, Seigneur, je veux te laisser tout ça. Tous ces aspects-là de ma vie, je veux te les laisser pour que tu puisses m'utiliser. Parce qu'il y a une cause plus grande, je ne fais pas ces choses-là juste pour moi, mais aussi pour toi. Tu peux passer? Ouais, peut-être pas passer. Quand on parle aussi d'intentionnalité, pardon, je vous fais référence aussi, c'est pas passé, au verset 26, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Vous voyez ce qu'il dit, c'est je cours pas juste pour courir en fait. Je tape pas juste pour donner des coups, mais il y a un but précis dans ce que je fais. Et ce but précis là, c'est cette course pour l'éternité, cette course pour l'évangile qu'on a vu tout à l'heure. Donc, deuxième partie, tu peux, ouais. Donc avec discipline. Ça, je pense que ce mot discipline, en tant que chrétien, on l'a entendu plein de fois. Et c'est un mot qui revient souvent, et même en tant que personne. Ah, il faut que je me discipline. Ah, j'ai fait un atelier pendant le campus cet été, où c'était discipline et gestion du temps. Et en gros, tous les jeunes me disaient, ouais, j'avoue, c'est compliqué, la gestion du temps, compliqué de se discipliner en tant que chrétien, etc. Ici, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul ? Verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ici, il faut faire une très grande distinction entre la discipline spirituelle et l'autodiscipline. Plein de chrétiens vont vouloir faire des fois de l'autodiscipline. Ils vont dire, ouais, il faut que je me force. Mais quand notre corps et quand notre volonté est morte, on peut pas forcer les choses, on ne peut pas demander à nous-mêmes, qui sommes pécheurs et qui ne voulons pas par nature faire les choses, de se forcer à faire les choses. On parle des fruits de l'esprit dans Galates 5, on parle de maîtrise de soi à la fin. Et je pense que la maîtrise de soi et la discipline sont des choses qui viennent de l'esprit. C'est pour ça qu'on parle de discipline spirituelle et pas d'autodiscipline. Si nous ne courons pas la course, si nous ne sommes pas chrétiens, et si Dieu ne vient pas par nos prières, si nous ne demandons pas à Dieu de nous discipliner et de nous donner cette passion aussi et cet amour pour ce qui est du ciel et pour ce qui est spirituel, jamais nous pourrons nous forcer et jamais notre discipline pourra être durable. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'excessivement important. Est-ce que vous croyez que les promesses de Dieu dans la Bible, promesses de joie, d'amour, de paix, à travers notre vie en Christ, est-ce que vous croyez que ces promesses-là sont supérieures au plaisir qu'on a sur cette terre, aux choses qu'on devrait mettre de côté ? Est-ce que vous croyez est-ce que vous avez confiance aussi que le Saint-Esprit qui nous est donné par Dieu pourra nous permettre de changer notre cœur, de changer nos désirs, de changer notre volonté ? Et je pense que cette discipline est très importante pour nous en tant que chrétiens, où il faut qu'on puisse scanner entre guillemets nos vies, scanner et se dire, ouais, quels sont les domaines de ma vie, quelles sont les choses que je fais au jour le jour qui m'éloignent de Dieu, qui me refroidissent, qui m'écartent de Dieu, ou au contraire, quelles sont les choses qui me permettent de me rapprocher plus de Dieu ? Quelles sont les choses qui me permettent d'avoir encore plus soif de la parole, d'avoir encore plus de sincérité dans ma prière, dans mon recueillement personnel, dans ma vie avec Dieu ? Et quelles sont les choses, au contraire, qui me détournent et qui me séparent de Dieu ? Quelles sont les choses qui me permettent d'être le plus utile pour Dieu ? Et quelles sont les choses qui me permettent d'être le moins utile pour Dieu ? Et cette discipline, c'est ça aussi. C'est de se dire, ok, le Saint-Esprit que Dieu m'a donné me permet de screener tout ce que je fais et me dire, mais qu'est-ce qui est bon pour Dieu et pour moi aussi, au final, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et Seigneur, donne-moi la force de voir ces choses-là et donne-moi la force aussi de changer ces choses-là dans ma vie. Donne-moi la force de m'imposer toute espèce d'abstinence. Donne-moi la force de traiter durement mon corps pour l'éternité, pour vivre cette éternité avec toi aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un des points les plus importants aussi, enfin ils sont tous importants, mais ça c'est très important, avec discipline. Dernier point, tu peux passer. Denis, s'il te plaît. Courir avec persévérance. 2 Corinthiens 11, versets 24 à 25. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, etc., etc., etc. Je pense que vous connaissez ce texte par cœur où Paul légitime un petit peu son ministère auprès des Corinthiens, où il dit aussi qu'il c'est un juif, qu'il connaissait parfaitement la loi. Et je pense que la définition même de la persévérance dans la Bible, je pense que Paul est un modèle parfait. J'aurais même pas pu vivre juste son premier truc déjà en danger de mort, je pense que déjà pour moi ça aurait été chaud. Alors j'imagine même pas tout ce que lui il a pu vivre, comment il a pu persévérer, tout ce qu'il a vécu. Mais au final, la persévérance de Paul et la persévérance du chrétien, c'est un moment pour nous, et Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit chérir. Philippiens 1, 29, hein, il nous a donné la grâce, non seulement de prendre part à l'Évangile, de connaître l'Évangile, mais aussi de souffrir pour Christ. Et je pense que c'est une grâce que nous avons de souffrir. Quand je vous ai dit au départ que la course était une de mes passions, je ne vous ai pas tout dit, en fait. Enfin, la course est une de mes passions, mais ça a une raison bien plus profonde. J'ai commencé à courir en 2013. C'était un peu une lubie. Enfin, en fait, j'ai commencé à courir, non pas parce que j'aimais la course, parce que j'avais découvert le marathon et tout, etc. Et que je me disais, ouais, c'est trop bien de courir pour mon corps, etc., pour mon esprit et tout. Mais je m'étais dit, je vais courir parce que j'ai besoin de sortir. J'étais dans ma période où j'étais dans le chômage, je cherchais du travail. Et du coup, je me disais, mince, il faut que je fasse quelque chose de mon temps. En fait, je faisais pas que de courir non plus hein, toute la journée, mais je me suis dit, ce serait quelque chose de bien. Et du coup, j'ai commencé à courir, juste comme ça, juste pour me changer les idées. Et quand j'ai commencé à courir, en fait, je commençais aussi à me poser beaucoup de questions par rapport à moi-même, par rapport à ma vie, par rapport à Dieu, par rapport à ma relation avec Dieu. En fait, je me suis rendu compte que dans ces moments de course, en fait, j'étais totalement déconnecté, entre guillemets, de ma vie de tous les jours, et Dieu m'a appris énormément, en fait. C'est comme si je prenais du recul sur ma vie, et Dieu, en fait, me parlait, à travers la nature aussi, quand je courais, et à travers les pensées, les méditations que j'avais en tête avant de courir. Dieu m'a énormément parlé, et Dieu m'a également permis de persévérer à travers ça. Je me suis rendu compte que quand j'avais mal, ben, c'était pas très grave, en fait, la douleur. Que la douleur que j'avais, ben, je pouvais aller au-delà. Et que cette douleur passagère, et que cette douleur court-termiste, allait m'apporter quelque chose de plus grand encore. Et je pense que cette image s'applique également à nous, en tant que chrétiens. Quand on parle de persévérance, on parle de notre attitude face aux épreuves de la vie. Comment est-ce qu'on va réagir? Quelle est la place de Dieu dans ces moments-là? Comment est-ce qu'on interprète cette épreuve? Est-ce que c'est un moyen? Est-ce que c'est une finalité? Ou est-ce que c'est un moyen que tu utilises pour me faire grandir? Ésaïe 30, versets 19 à 29. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, pardon, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite, vous iriez à gauche. » Ces moments de persévérance, comme le dit ici Isaïe, c'est des moments où Dieu va se révéler à vous aussi. Tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Le Seigneur utilise ces moments-là pour se rapprocher de nous, pour que nous puissions considérer notre situation et lui demander un guide, une direction, peut-être des idoles à détruire, des chemins à éviter pour que Dieu puisse nous guider. Franchement, il y a énormément de... Enfin, j'ai cuté beaucoup, mais voilà les trois points principaux sur le comment, sur le deuxième point, ouais, comment, mais il y a encore énormément de choses à dire. Mais je vais passer à la dernière partie, qui est un appel à l'amour pour les autres. Et je pense que ça, c'est super, super important, et je pense que vous l'avez vécu aussi aujourd'hui pendant la course. C'est que la course qu'on va faire et qu'on est en train de faire n'est pas juste pour nous, n'est pas juste pour Dieu comme on l'a vu, mais elle est aussi pour les autres. La première fois que j'ai couru un 20 km, c'était avec mon grand frère. Et en fait, il avait pris des places pour une course. Enfin, on lui avait donné des places gratuitement. Et le jour où il m'a appelé, il m'a dit... Ouais, je vais courir cette course-là. Je lui ai fait, mais tu n'y arriveras jamais. T'es trop nul, tu n'y arriveras jamais. Voilà, c'est l'honnêteté du petit frère. Et il a fait, ok. Il a raccroché. Il s'est entraîné comme un traître. Et du coup, il a fini dans un temps honorable. Et quand il m'a appelé, j'ai fait non, c'est pas possible, j'y crois pas. Et en fait, il m'avait dit, de toute façon, si je réussis cette année, l'année prochaine, tu courras avec moi. Je fais ok, t'inquiète. Je me suis dit, jamais il réussira. Il a réussi. J'étais coincé. Et du coup, l'année suivante, j'ai couru avec lui et c'était le jour de son anniversaire. Le problème, c'est que moi, je m'étais blessé à une cheville et que du coup, la veille, je disais, ouais, je pense pas que je cours. Ma soeur est médecin, elle disait, oui, franchement, c'est chaud, j'ai touché ton truc, j'ai l'impression qu'il vaut mieux pas que tu cours parce que tu vas aggraver la chose. Du coup, je dis ça à mon frère. Mon frère fait, ah ouais, c'est chaud. Il fait, attends, vas-y, viens, on va faire un repérage du parcours. À la voiture, je t'emmène. J'ai compris le message tout de suite. Cours quand même. Et, du coup, je fais. Et c'était son anniversaire, donc je me disais, ouais, Coco, enfin, frère, grand frère, je vais courir. Du coup, je rentre, je prends plein de médicaments, des antidouleurs et tout, et je cours. Son but, c'était de me faire moins de 2 heures pour le 20 km. Du coup, on a couru, et j'ai dit à mon frère, moi, dans ma tête, j'ai dit, je vais performer. Je vais faire 1h45 et tout, je vais courir et tout. Mais c'était son anniversaire, et je me suis dit, on va courir ensemble. Ça a plus de sens. Du coup, on courait ensemble. Et en fait, comme il y avait les stands pour s'arrêter tous les 5 km pour manger et boire, il y avait au moins 20 ou 25 000 personnes à la course. Et du coup, il y avait trop de monde dans les stands. Donc moi, j'ai dit, Coco, enfin grand frère, continue à courir, ne t'arrête pas, tu vas perdre du temps. Moi, je prendrai les à manger et à boire et je te les ramènerai. On courra comme ça, tu te focalises sur la course. Et franchement, c'était un moment, je pense que c'est la plus belle course que j'ai faite parce que c'était pas sur moi, c'était pas centré sur moi, pas centré sur ma performance, mais c'était centré sur mon frère. Comment est-ce que je pouvais l'aider? Comment est-ce que je peux faire en sorte que cette course ait plus de sens pour nous? Et je pense que, comme vous l'avez vu ce matin, hein, quand on court, on est ensemble. J'ai entendu dire que Sylvie avait couru, qu'elle était très sportive, et que Florence aussi a voulu après courir avec elle. Et je pense que ce genre de choses-là, c'est très important. Pareil, la course que j'ai faite à Disney, j'ai couru avec Joël aussi, et je le poussais, je lui disais toujours, allez Joël, on peut le faire. Allez Joël, on est ensemble. Allez Joël, on va faire moins de 2 heures. Bon, à la fin, il était mort, et du coup, il en avait marre de ce que je disais. Et j'ai su que je devais. Mais c'est très important aussi, parce qu'il me disait que ça lui permettait à des moments d'être boosté, de courir. Et je pense que ça aussi, c'est ça notre vie chrétienne aussi. On est amené à courir, mais on n'est pas tout seul. On va peut-être tous à des vitesses différentes, on a tous des dons différents, on a tous des visions différentes de Dieu, Dieu nous a touchés tous d'une manière différente. Mais on est là aussi, Dieu nous a donné des yeux aussi pour voir nos frères et sœurs. Hébreux 3, 12, 13, prenez garde frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, regardez-vous. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que, ah mince, est-ce que toi t'es parti dans un point du parcours où c'est pas bon? Mais viens frère, viens sœur. Courons ensemble, viens avec moi. Tu es fatigué? Tu es desséché? Tu as besoin de Dieu dans ta vie? Frère, je m'arrête un moment. Sœur, viens, prions ensemble, lisons la parole ensemble et recourons ensemble. Donc ça, c'est plus de manière chrétienne. Et puis 1 Timothée 4:16, je vous épargne tous les versets sur l'évangélisation, mais veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauras toi-même et tu sauras ceux qui t'écoutent. La manière dont nous courons, frères et sœurs, a un impact sur nous, dans notre relation avec Dieu, mais aussi sur nos frères et sœurs qui nous entourent, et aussi sur les non-chrétiens. C'est ça ton Dieu, mais quand je regarde ta course, quand je te regarde, mais on dirait que mais c'est comme moi, ou c'est encore pire, ou je ne sais pas. La personne en qui nous allons placer notre confiance, la personne en qui nous allons croire, la personne de qui nous allons tirer les enseignements, a un impact sur les gens qui vont nous voir vivre. Est-ce que vous voulez, frères et sœurs, que Christ dans votre vie, Dieu qui agit, puisse être un témoignage vivant pour toutes ces personnes-là, que vous puissiez sauver des personnes aussi à travers l'Évangile? Car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Notre course est super importante, non pas parce qu'elle nous sauve, mais parce qu'elle est un témoignage de celui qui nous a sauvés, et parce qu'elle peut aussi toucher les gens et sauver des gens à travers l'évangile de Christ. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. La course, la vie du chrétien, une course pour l'éternité. Cette éternité-là, nous l'avons déjà en tant que chrétiens. Si nous sommes rentrés dans la course, Dieu est allé gagner cette couronne pour nous. Jésus-Christ, mort sur la croix, est allé gagner cette médaille, cette couronne pour nous. Et en plus, il est là encore à nos côtés, jour après jour, pour nous aider à courir. Il est cet ami qui nous dit, Mike, Laurent, Florence, continue la course, continue le combat, parce que je suis avec toi et je vais t'aider à courir cette course-là. La médaille est déjà gagnée, mais Dieu veut que nous lui obéissions aussi par amour, par obéissance aussi pour courir cette course, pour courir cette vie, pour vivre avec intensément notre relation avec Dieu, pour pouvoir dire au monde, oui Seigneur, je crois en toi, oui Dieu, tu es mon Dieu, et je veux partager aussi cet amour envers les autres. Voilà, frères et sœurs, je vous encourage vraiment à qu'on puisse tous se remettre en question continuellement. Notre relation, notre engagement avec Dieu, où est-ce que nous en sommes? On n'est pas tous des Paul, j'en suis conscient, mais nous avons été sauvés par le même Dieu, et Paul nous demande d'être ses imitateurs aussi, et nous sommes tous appelés aussi à courir cette course pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien dans votre course. Amen. Je prie pour terminer. Ouais, Père, on veut te remercier, Seigneur, parce que tu es tout puissant, Seigneur, et tu nous as sauvés de nos péchés, tu nous as sauvés de nos attitudes qui te déplaisaient, Seigneur, et tu nous appelles à vivre une vie différente en toi. Merci, Seigneur, pour ta parole, merci pour Paul également, Seigneur, qui est un exemple, un modèle, Seigneur, à suivre. Et Père, on te demande vraiment que tu nous permettes de nous examiner nous-mêmes, personnellement. Qu'on fasse tomber tous nos masques, tous nos faux-semblants et qu'on puisse se poser les questions cruciales pour notre vie. En qui j'ai placé ma confiance? Quels sont les objectifs de ma vie? Sur qui je compte pour y arriver? Et Seigneur, vraiment, aide-nous à tout simplement transparent et honnête envers nous-mêmes et surtout montre-nous, Seigneur, ce que tu veux à travers ces questions-là, à travers ces réponses-là, Seigneur. Aide-nous vraiment à prendre plaisir, Seigneur, à être en toi, à prendre plaisir à ta parole, à prendre plaisir à être à tes côtés, Seigneur, à écouter ce que tu veux de nous et surtout à vivre une vie, à vivre une course qui en vaille la peine, Seigneur. Nous sommes sur cette terre pour un temps limité, Seigneur, mais nous voulons l'utiliser pleinement pour toi, Seigneur. Merci encore pour ces enseignements, Seigneur, et permets-nous, Seigneur, par ton esprit, de les vivre pleinement, Seigneur, et d'être des témoins, des lumières, là où tu nous as placés, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.